I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Très heureux, bien sûr, de vous retrouver pour cette saison 8 de La Dispute, une émission préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guy Lamège, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, pour débuter cette saison, Fabienne Pascaud, Philippe Chevillier et Jean-Christophe Briançon. À notre sommaire, un retour sur le Festival d'Avignon, avec un regard peut-être un peu général sur le cru 2018 et des regards acérés sur Tieste de Sénèque, mise en scène par Thomas Joly, qui va partir en tournée, qu'on peut voir également sur Culture Box. Et puis Joueur, Mao 2, Les Noms, d'après Don DeLillo, mise en scène Julien Gosselin, en tournée à partir du 6 octobre. Je donnerai quelques dates tout à l'heure. Aïssa Toundoy est là pour nous donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Vous pouvez suivre bien sûr le fil Dispute FC pour donner vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition de Kader Attia, Les racines poussent aussi dans le béton, à découvrir jusqu'au 16 septembre au Macval à Vitry-sur-Seine. Et traditionnellement, ce premier lundi de rentrée radiophonique dans notre dispute consacrée au spectacle vivant, nous faisons un retour sur le Festival d'Avignon, qui demeure tout de même le plus grand festival de spectacle au monde. Les années se suivent, ne se ressemblent pas forcément. C'était la 5e édition dirigée par Olivier Py, qui proposait cette année 47 spectacles pour un ensemble de 224 représentations. Qui a vu les 47 ici? Personne. Oui, quand même, faut pas exagérer. Un taux de fréquentation à des sommets quantitatifs. Nous annonçons 95,5% de taux de remplissage. Qu'en est-il du qualitatif en dehors des deux spectacles dont on va parler plus largement ce soir? On va commencer peut-être par des points positifs, des émotions, des images, des surprises. Et on va commencer avec Fabienne Pascaud.
Oui, c'est un festival qui a d'abord... Moi, j'ai été étonnée d'un point de vue global par la qualité de jeu des comédiens. Je trouve que dans la plupart des spectacles, les comédiens, les comédiennes françaises et les autres, bien entendu, étaient vraiment formidables. Alors que souvent, on voit des disparités de jeu. On se dit, tiens, les Allemands sont tellement formidables. Puis quand il y a des Anglais, les Anglais, bon, ils ont joué Shakespeare, ils sont rompus à tous les styles et tout ça. Eh ben les Français là, pas mal. Donc bravo.
Plus que pas mal à vous entendre.
Fabienne. Je trouve que c'est une qualité globale. Donc ça, j'étais plutôt satisfaite. Alors, on a beaucoup reproché à Olivier Py de ne pas avoir mis trop de vedettes, de stars dans son festival cette année, même s'il y avait Isabelle Adjani qui, pour France Culture, avec Lambert Wilson, lisait la correspondance Camus Cazares. Mais j'ai trouvé que c'était un festival engagé politiquement, qui racontait la violence politique avec Tieste, avec la Bérénice de Racine, et qui surtout a fait cet exploit de parler du genre tous azimuts. Mais moi, ce qui m'a mis un petit peu mal à l'aise, c'est que finalement, ça n'a déclenché aucune polémique. À part le pauvre évêque d'Avignon qui, au début, a dit une bêtise, qu'on lui pardonne, mais il a été le seul, donc ça n'a pas entraîné grand-chose.
Jean-Christophe, un commentaire, oui. Jean-Christophe Briançon.
C'est l'évêque d'Avignon sur France Culture aussi. Il y a eu une petite polémique à l'occasion d'une messe dite un dimanche à Avignon.
Voilà, une homélie.
Tout s'est passé sur France Culture cet été.
Très malencontreux.
Comme d'habitude.
C'est tout.
C'est là où il fallait être. C'est pas à Avignon.
Est-ce qu'on peut en retenir?
Et alors, moi, finalement, cette idée que cette polémique, qu'il n'y ait pas eu de polémique sur le genre à Avignon, alors qu'on sait quand même que ça fait débat en France, que c'est pas aussi simple pour les minorités LGBT, par entre autres, ça m'a donné quand même l'impression d'un entre-soi.
Bon, voilà. Vous êtes déjà dans le négatif, là.
Voilà.
Le point
donc,
est
voilà,
négatif.
Ça m'a, et je me tairai là.
Ça vous a interpellé, Fabienne Pascaud. Philippe Chevillier, restons sur le positif un moment, en dehors des spectacles dont on va parler, encore une fois.
Oui, alors moi, c'est un bilan même globalement très positif aussi, parce que, alors d'abord, si je me réfère aux fameuses étoiles de Télérama,
c'était la grande nouveauté.
C'était la grande nouveauté. Tout ne se passe pas que sur France Culture.
Il reste des choses pour Télérama. Télérama avait fait les étoiles, comme on le voit dans les festivals de cinéma.
Exactement,
notamment à Cannes.
Mais c'est bien
une
pour
bonne
le public,
idée de le faire
une aide
pour
aussi.
Dire combien d'étoiles.
Eh bien, finalement, non, mais ça permet de savoir un petit peu ce qu'une douzaine de critiques de gens de très différents ont pensé. Je les ai re-regardés. Finalement, c'est quand même, il y a quand même de très bonnes notes dans l'ensemble. Bon, mais ça, c'était une appréciation globale. Je pense que c'est toujours la même chose. Si vous réussissez à Avignon d'abord avec la Cour d'honneur, on va en parler tout à l'heure avec Thiest. Si à la Fabrica aussi, il n'y a pas de drame et que ça se passe, qu'il y a un spectacle qui intéresse. Et si en plus il y a un buzz, et il y en a eu un cette année, ça a été le spectacle de la reprise de Milo Rao qui a fait quasiment l'unanimité à quelques détails
bientôt
près.
À Nanterre.
Bon, il y a eu un peu l'échec d'Iphigénie qui n'a été très peu apprécié, mais sinon je pense qu'il y a vraiment eu des spectacles qui ont été phares et donc qui ont tiré le festival. Ensuite, il y a eu les deux lignes de force qui ont été la première ligne de la tragédie qui a été menée alors vraiment jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de tragiques dans ce festival, y compris d'ailleurs de la part d'Olivier Py qui a lui-même écrit une tragédie moderne, pur présent, que moi personnellement j'ai plutôt beaucoup apprécié. Et puis on a eu le fil du genre dont parlait Fabienne, et moi j'avais, en tout cas on a parlé du public, mais sur les spectacles même, j'ai trouvé justement que j'avais un petit peu peur que ce soit peut-être un gadget ou une façon de présenter les choses qu'on a toujours à Avignon pour donner un fil qui est un peu artificiel, et pas du tout, parce qu'on a eu des spectacles moi qui m'ont marqué comme Trans, où il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, c'est des spectacles qui m'ont marqué et que j'ai trouvé fort. Et pour finir, je pense qu'il y a aussi, on a eu à la fois le spectacle étranger qui vraiment marquait, c'était celui d'Ivo Van Hove. Moi, ça ne m'a pas surpris, les choses qui passent. Et puis, on a eu aussi les Françaises se sont bien défendues. Alors, on va en parler pour nos deux spectacles, mais aussi ce qu'a fait Christophe Rauque avec les élèves sur Le Pays Lointain, ce qu'a fait Brunel, moi, je n'ai pas vu, mais que mon camarade Vincent Bouquet a vu avec le spectacle « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Tiré d'un roman de Zeka, j'ai trouvé que bon voilà, globalement, alors il y a des choses qui étaient moins bien, mais c'est quand même un bon millésime, voilà.
Alors, Jean-Christophe Brianchon.
Alors, on va rester sur le positif aussi.
Oui, pour l'instant.
Je vais rejoindre Fabienne sur ce qui est du jeu des acteurs, des comédiens, que j'ai trouvé, y compris chez des metteurs en scène dont je ne goûtais pas jusqu'alors la direction d'acteur, que j'ai trouvé aussi particulièrement formidable. En particulier, on en parlera de Julien Gosselin, qui pour moi avait il y avait un problème dans ses pièces à ce niveau-là, qui a priori est résolu, parce que ces comédiens, ils sont assez remarquables sur la longueur, ce qui est quand même tout aussi remarquable. Et donc je suis assez d'accord avec Fabienne pour dire que sur ce qui est du jeu des comédiens globalement, on a eu affaire à un festival vraiment très intéressant et très riche. Il y a eu aussi, comme toujours, je pense que et ça va bien dans la continuité de ce que voulait faire et de ce que veut faire Olivier Py de ce festival, un festival qui soit aussi une plateforme où on vient pour penser, discuter, réfléchir, essayer d'échanger. Je pense que jusqu'à présent, j'avais le sentiment, en tout cas personnellement, que ce n'était que du discours et que ça n'avait pas réellement de réalité concrète dans son festival. Là, je trouve qu'avec le fil des années, on s'y retrouve, on se retrouve effectivement à Avignon, à un endroit où on peut, si ce n'est penser, parce que la pensée c'est toujours compliqué à faire émerger, en tout cas discuter, échanger sur des thèmes très divers et aussi bien sur le fond que sur la forme, parce qu'il propose bien évidemment plus que du théâtre, et j'ai trouvé aussi que cette année la programmation cinématographique, sans être d'une audace incroyable, en programmant Sébastien Lifshitz entre autres, ou en programmant Tomboy de Céline Sciamma, qui sont des films qu'on avait déjà vus, qu'on avait appréciés, mais les montrer à cet endroit-là, dans un festival de théâtre et dans un lieu de pensée, je trouvais que c'était intéressant et réussi.
C'est vrai que la durée aussi, cinquième édition, donc dirigée par Olivier Py, ça permet de voir, et ça c'est une chose que je trouve plutôt belle, une forme déjà de fidélité, puisqu'il y avait eu un focus Moyen-Orient il y a peut-être 3 ans maintenant, et qu'on a vu là cette année revenir des metteurs en scène, des auteurs qui viennent d'Iran, d'Égypte, de Syrie, du Liban, et ça je trouve trouve que c'est une belle chose de proposer de nouveaux noms et qui, en proposant là un deuxième spectacle, de commencer à avoir un petit aperçu, et on peut l'espérer, qu'ils reviennent les uns, les unes et les autres. Bon, il y a eu aussi comme point positif la Coupe du Monde de football, hein, Jean-Christophe Briançon. Nous avons regardé la finale ensemble. Philippe Chevillier, lui, était sur une terrasse lointaine. Or, d'Avignon, Fahime Pasco, elle, boude le football.
Tout à fait, j'en voilà. Suis fière.
Bon, il n'y a pas de quoi,
c'est vrai.
Ni d'aimer, ni de pas aimer. Mais c'était pour faire un point complet sur cette actualité qui pouvait être positive par moment. Philippe Chevillier.
C'est le seul spectacle qui se terminait bien du festival, quand même. Parce que je parlais des tragédies, mais...
Oui, enfin, pour la nation qui nous représentait.
Ah, oui,
moins bien
sûr.
Pour les autres, ça dépend. Ça peut être une tragédie pour les Belges, par exemple. Voilà. Point négatif, vous avez commencé à aborder, Fabienne, donc je passe la parole à Philippe Chevillier. Il y a eu des mauvaises surprises, il y a eu des choses qui ne...
Non, bah, alors, moi, j'en aurais pas beaucoup. Globalement, c'est vrai que je pense que là, au final, il y a des gens qu'on avait un peu assez du côté très tragique des pièces. Enfin, c'est le reflet du monde, donc ça, on peut pas... Voilà, il y a eu, pour moi, cet échec qui est celui d'Iphigénie, là, j'en parlais tout à l'heure, qui est quand même dans aussi au Cloître des Carmes, un endroit emblématique.
Les enseignes de Chloé Dabert.
Chloé Dabert, j'avais trouvé son adaptation de Lagarce plutôt bonne à la Comédie Française. Et là, on a été déçus parce qu'il y a un sentiment qu'il n'y avait pas de propos, que les corps n'étaient pas très jolis, qu'il ne se passait pas grand-chose et que l'amour que portait Chloé Dabert à cette pièce, puisqu'elle le disait dans son acte d'intention, ne suffisait pas à donner une dimension très forte.
On l'évoquera, cette Iphigénie, dans une prochaine dispute.
Et puis, il y a d'autres spectacles qui m'ont paru plus... par exemple, le Tartufias de...
Oh, je l'ai trouvé pas mal, moi, le Tartufias.
Bon, je trouve que c'était un peu... Moi, j'ai pas adoré. J'ai trouvé que c'était un peu en décalage par rapport au reste. Mais au fond, ça parlait quand même...
Le décalage, c'est bien aussi.
C'est bien aussi.
Ça parlait aussi de l'Europe de l'Est,
voilà,
beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup, ça qui était intéressant.
Et puis, ça parlait du pouvoir, des dictatures, etc. Mais je trouvais que c'était en termes d'esthétique, ça m'a paru un peu vieilli par rapport au reste. Mais c'est un avis très personnel. Et puis, encore une fois, heureusement que dans un festival, on n'aime pas tout, parce que sinon, moi, ça m'inquiéterait.
Un coup de gueule, Jean-Christophe Briançon ?
Non, j'ai pas de coup de gueule sur une pièce en particulier, parce que et d'ailleurs j'en tirerai aucune conclusion sur le festival, parce que c'est même bien qu'il y ait des ratés, c'est nécessaire, c'est indispensable qu'il y ait des ratés. Donc il y a évidemment des pièces qui ne m'ont pas plu, dont certaines dont on va parler ce soir, des pièces sur lesquelles j'ai des réserves, des tentatives, mais justement qui ne sont pas nécessairement des tentatives. Alors j'ai pas vu Iphigénie en l'occurrence, mais de ce que j'en entends, il y a manifestement une tentative, il y a quand même quelque chose qui a priori faisait preuve d'une certaine forme de radicalité dans sa neutralité, dans la neutralité de son ton. Donc bon, mais malgré tout, c'est une tentative, c'est quelque chose. Donc à la rigueur, il y a eu des pièces qui m'ont pas plu, mais quand elles sont des tentatives, ça ne m'a pas forcément dérangé plus que ça. Ce qui me dérange, et j'ai trouvé ça d'ailleurs intéressant qu'on revienne sur le Festival d'Avignon aujourd'hui, au lendemain de cette tribune, parce qu'il y a eu une tribune publiée hier dans Libération par Yann Goussens, qui est le directeur du Festival de Marseille, qui, de ce point de vue-là, à mon sens, c'était très intéressant. Alors évidemment, il est partie prenante dans l'histoire, mais pour ce qui est de réfléchir sur ce que devrait être un festival et sur ce que, en l'occurrence, ne sont pas, selon lui, certains festivals d'Europe, je trouve qu'il y a là matière à penser sur le Festival d'Avignon en particulier, parce que s'il n'y a pas eu forcément de tentatives scandaleuses, il y a en tout cas, d'une manière générale, dans ce qu'est ce festival et dans la programmation qu'elle propose, quelque chose de l'ordre du marché international, de la présentation par un programmateur du petit marché international qu'il aura fait auprès des grands noms qui sont ceux qu'on voit un petit peu partout.
Montrer... Sans lien avec la ville, c'est ça qui raconte.
Voilà, sans lien, effectivement, voilà, sans lien. Alors, parce que montrer Ivo Vanov, bon, bah, c'est très bien, pourquoi pas, mais pourquoi, à quel instant, à quel moment, pour quelle raison, dans quel ancrage, avec ce lieu, avec ce public. Bon, en l'occurrence.
Oui, mais le travail que fait Yann Goossens à Marseille, ce qu'il faisait précédemment à Gand.
Il était à Bruxelles.
Bruxelles,
au KVS.
Effectivement, pour lui, c'est quelque chose d'important, l'implantation, le travail
dans
territoire. Mais bon, c'est un travail à l'année, un travail d'un festival, c'est autre chose. Non.
Et en plus, en l'occurrence, Olivier Py, on peut pas lui reprocher de ne pas s'investir dans le territoire.
Il a moins travaillé avec la prison.
Avec des jeunes des villes alentours d'Avignon. Donc, on peut pas lui reprocher ça. Mais c'est juste dans la tonalité de la programmation, on a quand même, à certains instants, l'impression d'avoir juste affaire un espèce de florilège de ce qui se passe de bon.
S'il
n'y
avait pas
Europe,
le Ivo Vanno, le Ostermeyer, ou le qui
je sais pas
bien
si on
râlerait.
Peut-être, mais essayons.
Savoir, essayons. Je ne sais pas, à nous de décider en même temps.
Surtout qu'il était décevant quand même, l'Ivo Vanno, Philippe Chevillier.
Alors moi, je
ne
suis pas d'accord du tout. On en parlera. Alors je ne sais pas si on en
parlera peut-être pas cette fois.
Parce que je ne pense pas qu'on le verra cette année. En fait, on va avoir un autre de la trilogie. Donc je ne sais pas si on en parlera. Donc moi, j'ai trouvé au contraire que c'était un des spectacles les plus aboutis parce qu'il était d'une grande radicalité, d'une grande force.
On nous vendait ce Louis Couperus comme le Proust flamand.
Ou le Thomas Mann flamand.
Oui, bon, alors on peut choisir. C'est ni l'un ni l'autre pour moi. Hein.
Bah, oui, mais c'est ça qui était trompeur et qui était un peu cruel. Nous l'amener comme le Proust flamand, bon.
C'est pas ce
mais
que
si, on le regarde, si on le regarde sans ça, moi je trouve que c'était une réussite extraordinaire.
C'est lui, c'est sorti du dossier de presse en tout cas. Bon, le dossier de presse d'Avignon.
Il essaie de donner une comparaison. C'est vrai qu'il y a une dimension. Disons qu'ils ont, qui sont tous les deux auteurs homosexuels qui se posent la question de la famille,
au début
du temps
du
qui passe, etc.
Siècle.
Mais sinon, pour le reste, je trouve qu'on est un peu injuste sur Couperus parce que finalement, on le découvre seulement. Moi, j'ai trouvé que ce texte était intéressant, qu'il n'était pas plus hystérique que certaines pièces qu'on voit. Certains le comparaient à Tchekhov, ça n'a rien à voir avec Tchekhov. Non, je pense que ça. On en jugera puisqu'on parlera peut-être du Hidden Force qui est le deuxième partie ou la première partie de la trilogie qu'il a faite sur Couperus, et on pourra dire ce qu'on en pense à ce moment-là.
Enfin, Ivo Vanov nous dit que la traduction française de Couperus est très médiocre, donc c'est compliqué d'aller
C'est possible
la lire
aussi, parce que
il la déconseille fortement.
Au-delà du texte, son travail à lui était quand même assez remarquable.
Moi, je le trouvais remarquable.
Le travail scénographique et de direction des comédiens était assez remarquable.
La chorégraphie, même, on peut parler de chorégraphie, est très picturale, avec ses corps noirs qui évoquaient. Oui, c'était très beau, ça.
On s'égare, Philippe Chevillier.
Non, ce que je voulais juste te dire, c'est que moi j'ai aussi entendu lors du festival, dans les bars du festival, un propos inverse de dire oui, c'est plus un festival international parce qu'on n'a pas Ostermeyer, on n'a pas Castellucci, on n'a pas ceci et cela. Donc c'est vrai que l'équilibre est difficile à trouver entre.
Très difficile. Je dis pas que c'est facile.
Est-ce que vous avez eu le temps, question subsidiaire, d'aller dans le off?
Beaucoup.
Qu'est-ce que vous retenez là?
Alors là, je peux rien vous dire, parce que je n'ai pas préparé le off, mais j'ai vu plein de spectacles du off et j'ai trouvé des spectacles pas mal du tout. D'ailleurs, c'est étonnant, les chiffres du off, là, où il y avait quand même 4400 comédiens, une petite ville.
1500 spectacles, ou
voilà,
chose comme ça.
Voilà, 1500 et quelques spectacles dans 133 lieux, une fréquentation qui talonne quand même presque celle du IN et des gens qui y vont. Et des spectacles qui sont pas mal du tout, de mieux en mieux, moi je trouve. C'est étonnant. Et d'ailleurs, les directeurs, le danger du off aujourd'hui, c'est que les directeurs de salles parisiens viennent faire leur marché dans le off et du coup, ils produisent moins de spectacles à Paris.
Bah, oui, mais les gens vont dans le off pour être programmés, donc s'ils le sont, c'est merveilleux.
Oui,
c'est
et
pour
puis
eux.
Là, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc,
est-ce que ce n'est pas gagnant-gagnant, Céline Pascaux?
Pas sûr, parce que ça veut dire moins de prise de risque dans les théâtres privés parisiens.
Non, pour ceux qui sont programmés ensuite.
Oui, pour ceux qui sont programmés, mais ils sont assez peu nombreux sur la masse,
très peu
proportionnellement,
nombreux.
Et c'est peut-être normal aussi. Mais...
Un spectacle du off, Jean-Christophe Briançon, vous n'avez pas eu tout le temps?
Si, j'ai eu le temps et j'ai pas particulièrement envie de leur tomber dessus, parce
d'accord,
que c'est pas évident.
Philippe Chevillier.
Il y en a eu des très bons. Hein.
Oui, j'ai pas eu de chance, j'ai pas forcément vu les bons.
Moi j'ai un avantage, c'est que j'en ai vu grosso modo qu'un, donc je m'en rappelle. Et c'est Le Garçon d'Italie que j'avais vu au Théâtre Ouvert lors du Festival étudiant, mis en scène par Mathieu Touzé, avec le jeune Yu Ming-hae, alias Aurélien Feng. Et c'est une jolie adaptation du roman de Besson, qui se prête bien au théâtre, avec une mise en scène très simple, et avec des comédiens, trois comédiens, deux garçons et une fille, très bons. Ça a été un grand moment, ils ont fait un petit buzz. Mais c'est vrai, j'ai eu l'impression...
Je confirme la qualité de ce spectacle.
Voilà, il y a eu vraiment un buzz sur ce spectacle. Et je confirme ce que disait Fabienne quand même, c'est que j'ai eu l'impression, en voyant de droite et de gauche les tweets et les commentaires et les blogs, qu'il y avait des spectacles qui ressortaient, qui sont plus faciles à trouver qu'avant, parce que bon, on se connaît un peu les théâtres, on connaît un peu les on arrive à s'y retrouver maintenant dans le off si on
sont faciles à trouver pour ceux qui savent sur quel site, quel compte Twitter suivre, etc.
Non, mais il y a de très bons lieux quand même. Il y a des lieux comme la Manufacture, le Louvre, il y a des lieux où
enfin, les étoiles du off, il va falloir sortir un annuaire tous les jours.
Voilà, on y pense.
Voilà une idée pour l'an prochain. Bon, après ces regards synthétiques, maintenant des regards analytiques à suivre dans la dispute avec Thieste dans un premier temps, puis nous parlons de la trilogie Donne de Lillo.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée donc ce soir au spectacle vivant avec un retour sur Avignon, à commencer évidemment par la cour d'honneur offerte cette année à Thomas Joly, l'un des metteurs en scène qui a véritablement éclos au festival. C'était avec Henri VI de Shakespeare en 2014, spectacle au très long cours, comme les aime le festivalier, souvent. Il a depuis, Thomas Joly, signé de nombreuses mises en scène pour le théâtre, pour l'opéra. Il ouvrait donc cet été le Festival d'Avignon avec Thieste de Sénèque, une pièce du 1er siècle après Jésus-Christ, qui raconte la rivalité entre deux frères, Atrée et Thieste, petit-fils de Tantale et fils de Pélops, dont les crimes successifs font partie de cette grande, triste et terrible histoire des Atrides.
La folie s'allume dans mon cœur. Il faut que ce feu grandisse. Le plaisir d'être possédé par un monstre qui grossit.
Que vas-tu nous inventer encore dans ta rage ?
Il me faut la démesure !
Quelle sera donc l'arme de cette douleur sans mesure ?
Thieste lui-même.
Les paysages de ma terre natale. Retrouver les dieux du pays de son père. S'il y a des dieux dans ce pays, c'est pour un exilé, un miséreux, le plus beau jour de sa vie. Je regarde les murailles sacrées, la forteresse construite par les cyclopes, trop belle pour être une œuvre humaine. Je regarde le stade et les jeunes athlètes. Et j'ai couru ici autrefois. Je conduisais le char de mon père. Et plus d'une fois, j'ai remporté le prix.
Devant mes yeux flottent des images. C'est la scène du meurtre. C'est le repas. Le père qui mâche son malheur et avale ses enfants.
Les géants seraient-ils sortis de leurs prisons infernales ? Les géants recommencent-ils la guerre ? Est-ce Prométhée, dont le cœur épuisé a retrouvé des forces ? Est-ce l'homme blessé qui rallume ses vieilles colères ? Est-ce Typhon qui se soulève surgissant de dessous la montagne qui l'écrasait ? Les géants de Macédoine se sont-ils ouverts une route vers le ciel en entassant l'ossa de Thrace sur le Pélion de Thessalie ? Qui a mis fin à la loi de l'éternel retour ?
Voilà pour l'ambiance un peu, pour se remettre dans la cour d'honneur. Thieste, Philippe Chevillier, encore réjoui visiblement.
Oui. Alors, il était très attendu Thomas Joly hein, dans la cour d'honneur. Après Richard III qui avait quand même été un peu chahuté. Il y a eu les deux opéras, Molière Gabalo où il
chahuté.
Fantasio,
très apprécié, y compris par moi-même. Voilà. Je le répète.
Et donc on a cette tragédie qui est quand même une des pires des tragédies, puisque cette histoire quand même de deux rois, avec l'un qui propose à son frère en repas ses enfants pour se venger du fait qu'il lui ait volé sa femme et son trône à un moment donné.
Il ne propose pas ses enfants à manger, hein, rappelons-le. Il propose un dîner, il se trouve qu'après le repas, il va lui dire qu'il a mangé ses enfants.
Oui, voilà.
Parce que ce sera un peu...
Il ne le sait pas,
rappelons-le quand même.
Donc j'essaie de résumer, vous voyez, c'est pas très facile. Même des tragédies les plus simples, c'est pas très facile à résumer. Donc cette tragédie qui est quand même assez incroyable, moi je trouve que dans ce spectacle, on voit l'intelligence et l'invention du metteur en scène, c'est-à-dire qu'il a toujours il en a fait quand même déjà pas mal des spectacles, et que il ne s'est pas borné à reproduire ce qu'il avait fait avec Shakespeare, son théâtre de Tréteaux avec ses images rock'n'roll, etc. Il a fait quelque chose de plus intelligent, et qui est assez difficile à décrire, parce que c'est à la fois une vision très glacée, très noire. On est vraiment pris. C'est vraiment assez sinistre comme. C'est vraiment assez horrible ce qu'on voit comme spectacle, et en même temps c'est très radical, et en même temps c'est très spectaculaire. Et donc je pense que ça repose sur deux choses. D'abord, il y a une traduction de Florence Dupont qui est assez exceptionnelle, et qu'il a très bien su coller au texte, avec un progrès par rapport au jeu. C'est-à-dire que lui, moi je trouve toujours qu'il joue très bien, mais je trouve que les comédiens derrière et la troupe qu'il a mis autour de lui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, notamment Annie Mercier qui est assez formidable dans son rôle de la Furie. Et puis au niveau des effets, justement, il a utilisé la cour d'honneur. On était à Avignon, il a utilisé la cour d'honneur. Alors avec quelques embrasements, il y en a peut-être en trop, mais il y a quand même des choses comme la pluie de papillons noirs, par exemple, qui se déverse sur la scène, ou simplement le moment où tout d'un coup on se rend compte que les dieux sont absents, que le soleil va disparaître et qu'il y a ce cœur d'enfant dans un éclairage vraiment à la fois plein feu mais en même temps assez funèbre. Il y a vraiment des images, moi, qui me sont restées, des images choc. Et du coup, je trouve que la tragédie, on l'entend, on la ressent. Elle est à la fois elle vient du fond des âges, et en même temps, elle est très moderne, parce qu'on y voit la violence pure du pouvoir, l'absence de Dieu. Et donc, du coup, moi, ce spectacle m'a vraiment donné m'a provoqué un choc, et j'ai trouvé que c'était une belle réussite. Alors j'ai des réserves, mais je les dirai après.
Très bien, gardez vos réserves pour l'instant. Jean-Christophe Brianchon, j'ai cru comprendre dans vos propos tout à l'heure que c'était peut-être pas forcément votre spectacle préféré d'Avignon.
Alors c'est pas mon spectacle préféré, pour autant je reconnais vraiment le talent de l'artiste, le talent de Thomas Joly, qui en l'occurrence livre selon moi là avec Henri VI son meilleur spectacle, peut-être là où il a réussi à être le plus juste. Alors pour des tas de raisons, des raisons qui parfois lui sont extérieures, comme le disait Philippe, par exemple la traduction de Florence Dupont qui est effectivement je trouve remarquable, mais aussi pour des raisons qui lui sont totalement imputables, comme la direction des comédiens qui contrairement à ce qu'elle peut être habituellement, ou comme elle a pu l'être parfois, ici est assez intéressante, beaucoup plus posée, ou en tout cas beaucoup moins hystérique et volatile qu'elle n'a pu l'être, sachant que je suis un fan inconditionnel d'Annie Mercier, et donc de toute façon, quelle que soit la façon dont elle soit dirigée, en l'occurrence ici je l'ai trouvée plutôt bien, je la trouve à peu près toujours exceptionnelle. Après, c'est quand même une pièce qui me pose plein de questions, mais des questions finalement qui me sont très personnelles, parce que c'est une manière de penser et de faire le théâtre que je ne partage pas forcément. Là, c'est une manière de penser le théâtre comme étant une œuvre de comédien et un médium au service de la transmission de l'histoire des hommes d'une manière assez quasiment éducative. Et c'est intéressant parfois, c'est utile certainement, mais c'est en tout cas pas nécessairement ce que je viens rechercher. Et je trouve qu'ici, Philippe disait qu'on entend la tragédie. Alors oui, c'est vrai, on l'entend. On la voit, elle fait du bruit, elle fait éventuellement un petit peu peur quand on est devant. Mais finalement, à la fin, qu'est-ce que j'ai ? Je rentre chez moi exactement de la même manière que je vais me coucher après un journal télévisé le soir à la télévision. C'est j'ai vu l'horreur du monde, mais elle ne m'a pas laissé grand-chose en tête. Donc,
qu'est-ce que vous avez mangé?
Ça me dérange. J'avoue que j'ai pas mangé, j'ai bu.
Non, bah, bravo. De l'eau plate, bien sûr.
Et ben moi, j'aime ça justement pour les raisons pour lesquelles Jean-Christophe n'aime pas. Parce que je trouve qu'il retrouve, et ça on s'en rendait compte, enfin moi je m'en suis rendu compte à la fin du festival, après 3 semaines de spectacle dans tous les sens, ben on peut dire quand même que Thomas Joly, c'est vraiment l'héritier de Jean Vilar, d'une certaine manière. Au sens noble du terme. Et pour la scénographie à les pattes, comme ça, c'est aussi l'héritier de Planchon, d'une certaine manière. Il veut faire partager son amour du théâtre, il veut faire du spectacle populaire, au sens le plus noble du terme. Il veut éduquer, oui, pourquoi pas, si c'est éduquer pour raconter ce que c'est que le mal, parce que cette tragédie-là, Thieste, elle nous questionne sur le mal que chacun porte en soi, parce qu'au départ, ce Thieste, quand on le voit interprété par Thomas Joly, qui pour moi c'est son meilleur rôle de loin, il est là tout habillé en jaune, c'est vraiment le petit prince du mal. Il est plutôt mélancolique au début, il est triste que sa femme l'ait trompé, il est triste que son frère l'ait trahi. Et puis tout à coup, la rage, la fureur tragique rentre en lui, le mal rentre en lui, comme il peut rentrer en chacun de nous, Et ça va donner la pire des tragédies possibles. Et moi, ça m'a questionné par rapport au mal qui est si proche de nous, au mal qui peut nous infuser. Donc ça va au-delà du journal télévisé quand même. Pour moi, c'est pas du tout extérieur ce que j'ai vu et ce que Thomas Joly m'a donné à sentir et à comprendre. Et ces comédiens, dont la fureur d'Annie Mercier, qui est cette présence-là dont vous avez très bien parlé, mais même Attrait aussi, qu'on voit surgir des enfers comme une espèce de méduse horrible.
Tantale.
Pardon ?
Tantale.
Tantale, oui, Tantale. Donc moi, ça m'a rendu proche tout ça et la leçon de Thomas Joly, c'est que c'est une leçon politique aussi, parce que c'est vrai qu'il nous dit des choses, il veut nous dire des choses, il veut nous donner des messages, et bien que les drames politiques d'aujourd'hui, c'est aussi noué par le drame, le mal qui s'est insinué en chacun de nous, où le frère tue le frère.
Comme
dans les guerres civiles.
Pour relancer un peu, alors c'est précisément pour les raisons qui font que vous aimez, font que je n'aime pas.
Parce que vous êtes snob.
Ah non, mais ça c'est votre coup tellement
oui,
facile.
Oui, parce que c'est un spectacle mais partageur.
Non, pas, je ne crois pas du tout. Mais ça, on s'oppose fondamentalement là-dessus. Et le plus snob des deux n'est peut-être pas celui qui dit que c'est l'autre. Enfin bon, bref, non. On va pas commencer l'année là-dessus, sur le côté. Wow. Attendez, mais je vais juste quand même développer. Mais je pense qu'il y a une forme de schizophrénie en fait chez Thomas Joly. Parce que l'héritier de Jean Vilar, j'entends bien ça. Le problème, c'est que Jean Vilar, ça date...
Jean Vilar en 2018.
Ben justement, non, c'est ça le problème. Non. C'est bien le problème, c'est qu'il s'est arrêté à Jean Vilar circa fin des années 60.
Il utilise tous les moyens de la modernité.
Ce que je veux.
Tous les moyens de la modernité.
Comme vous, Fabienne. Donc je vais continuer. Bien, c'est là la schizophrénie, parce qu'il y a ce côté manga, lorsque le pompon, c'est le cœur en rap avec la coiffure unicorn. Enfin bon, ce sont des choses qui sont tellement, pour moi, gadgets. Alors, les effets de lumière, style le son et lumière, les Mylène Farmer, tout ce que vous voulez. Pourquoi pas, mais je préfère aller voir Mylène Farmer que d'avoir ce mélange. Et je pense qu'il est quand même complètement tiraillé entre cet héritage, mais vraiment figé, un côté muséal. Je veux bien qu'il ait envie d'être Gérard Philippe, mais on peut plus jouer comme ça, je pense, aujourd'hui, pour transmettre. Quand Jean-Christophe Brianchon disait justement on entend tout, mais moi j'entends rien à force d'entendre tout. Chaque syllabe est tellement articulée avec cette volonté de bien nous la faire rentrer dans la tête, qui en plus d'une façon très redondante avec la musique, très pénible, ces nappes de synthé, ces percussions. Donc il y a une forme de grandiloquence plus grandiloquence. Moi, au final, ça annule l'émotion. Alors, bien sûr qu'il sait faire, il sait mettre en scène, il y a le travail de lumière, il y a un travail d'espace,
qu'on peut aimer ou pas aimer. Mais tout le monde n'est pas capable de la grandiloquence et de la flamboyance. Il faut savoir
utiliser un plateau pareil. Je ne dis pas qu'il est incapable, je vous dis que ça produit sur moi, c'est-à-dire un effet à l'inverse, j'imagine, de ce que ça produit sur vous. C'est pour ça que je me permets d'exprimer mon point de vue, mais et je sais, pour avoir vraiment apprécié le travail de Fantasio, qu'il est capable d'un travail de très grande précision, d'inventivité, et là je trouve j'ai cru sentir qu'il était complètement écrasé par la cour, par le drame, par la tragédie, parce qu'effectivement, quelle pire histoire que celle-ci, et que du coup, là, il y avait une sorte de résistance à l'émotion, en fait, parce que tout était tellement cadré. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, Philippe?
Oui, mais j'ai pas du tout ressenti ça. Et
c'est bien, c'est pour ça que je vous donne la parole.
Pour revenir sur ce que disait Fabienne, et pour abonder dans son sens, quand elle parle de Vilar, c'est sur le côté populaire exigeant, mais c'est pas du tout dans l'esthétique, parce que Vilar, c'était...
Le jeu, quand même.
Il y avait très peu de décors.
Surjoué.
Il y avait très peu de décors, c'était les costumes.
33 tours.
Mais non, mais la tragédie, ça se joue pas comme Pinter.
On n'est pas obligé de proférer tout le temps.
Pourquoi pas?
Alors, on n'est pas obligé de proférer tout le temps. On peut, mais on n'est pas obligé.
Donc ça ressemblait pas sur l'esthétique du tout à Vilar, et donc il y a une, moi dans la cour d'honneur telle que je l'ai ressenti le soir de la première, il y avait une tension, il y avait une force, il y a des idées intelligentes, encore une fois cette pluie de papillons noirs, j'insiste dessus, la rappeuse, je trouvais ça justement très très fort, et j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient de mon avis, parce que justement jusque là Thomas Joly faisait son petit show quand il faisait par exemple Richard III, son côté chanteur pop et tout ça. Là c'est intégré, et la fille qui joue ça est très bien, et comment elle s'appelle, Emeline Frémont. Moi, ça m'a vraiment porté ce spectacle, et je pense pas que ça soit ni tenitruant, ni, parce que quand on entend effectivement à la radio, quand je pense que les images de la télé, ça déforme beaucoup. Quand on est dans la cour d'honneur et que là, il y a le bon dosage du son et des images, et qu'on voit arriver cette scène, par exemple, qui est celle du silence. Encore une fois, j'insiste sur les enfants qui sont sur la scène, qui va y avoir le cœur d'enfant. C'est une scène qui est glaçante, qui est très forte. Je suis d'accord sur le fait, mais je pense que justement ça s'est amélioré, qu'il y a une génération de jeunes acteurs qui aiment bien porter la voix trop fort, et qu'il y a encore ça dans le spectacle, notamment Thieste à la fin, crie trop.
Sachant que c'est quand même sonorisé, qu'il y a un jeu qui peut être intéressant d'ailleurs, sur la couleur des voix, sur les effets qui sont donnés, donc c'est pas une nécessité la profération.
Mais ça je suis d'accord, et je pense d'ailleurs que la fin est se délite un peu, parce que ça manque un petit peu tout d'un coup, ça perd de sa force, bien que l'ambiance, je trouve, soit formidable vers la fin. Et je trouve que Thomas Joly, lui, est un excellent acteur. Et je pense qu'il est intelligent dans toutes ses intentions. Il n'y a pas une intention qui soit fausse, en fait, dans ce qu'il nous montre.
Mais on entend les intentions à chaque syllabe. Vous voyez le problème que ça peut poser ou pas?
C'est bien qu'on comprenne le texte.
Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Ça doit changer à chaque représentation. En plus, la cour d'honneur, c'est pas un lieu facile.
Il rêvait d'y être, comme tous les metteurs en scène rêvent d'y être. Et c'est bien normal.
Oui, il rêve pas tous, il y en a beaucoup qui se débinent quand même.
Il y en a qui déclinent.
Oui, il y en a qui déclinent, bravo. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté aussi spectacle total, quoi. Il fait la scénographie, il s'occupe de la musique. Alors, les costumes ne sont pas toujours tous réussis. Mais moi, c'est cette dimension quasi wagnérienne que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé qu'il avait du culot et qu'il y arrivait, quoi. C'était vraiment pour moi une fête.
Jean-Christophe Briançon.
Il a du culot, c'est sûr, et c'est pour ça que je pense que le côté effrayant de la cour d'honneur, finalement, on peut pas vraiment dire que c'est une excuse pour lui, parce que manifestement, il s'en est emparé avec grande joie.
Mais bien sûr, et tant mieux.
Et d'une certaine manière avec savoir-faire, parce que l'espace est occupé, tout est là. Donc finalement,
il fait l'amour avec la cour d'honneur.
Très clairement. Et concrètement, il le fait bien, et c'est le problème, et c'est là que fondamentalement, on peut lui reprocher des choses quand on n'aime pas cette pièce, c'est qu'il fait tout bien, en fait. Il fait tout tellement de bien que manifestement, il est conscient de tout. Ce garçon, en plus, est effroyablement intelligent. Je trouve d'ailleurs, il parle très bien de sa pièce, même si je l'ai pas aimé. C'est absolument délicieux de l'entendre en parler, parce qu'il en parle très bien, avec beaucoup d'intelligence et de savoir historique, entre autres. Donc justement, tout ce savoir et l'intelligence qui est la sienne ne nous permettent pas de, finalement, à la fois ne nous permettent pas de le critiquer et en même temps nous permettent de le critiquer encore plus, parce que du coup le désaccord qui se fait quand on voit sa pièce et qu'on ne l'a pas aimé, c'est un désaccord fondamental sur finalement une manière de penser et de faire du théâtre. Et ça, moi, c'est un désaccord fondamental que j'ai avec lui.
Moi, je le connais pas, lui.
Non, moi non plus. Avec cette manière de faire, c'est un désaccord fondamental. Après, je trouve que ce garçon est fort et il fait très bien ce qu'il fait à l'endroit où il le fait.
Je précise que je parle de mon ressenti sur un spectacle. Je parle pas de Thomas Joly, dont je sais qu'il est capable.
Il montre ça aussi de manière shakespearienne. Il s'est rendu compte que Sénèque était quand même une matrice importante dans l'œuvre de Shakespeare, et que Titus Andronicus était aussi nourri par Thieste et quantité de pièces de Shakespeare. Donc, il adapte aussi tout son savoir de Shakespeare à cette tragédie-là, et tout ce théâtre fabuleux du monde shakespearien, ça fait partie aussi du spectacle.
Un petit mot, Philippe Chevillier, et on va entendre aussi quelques commentaires de nos auditeurs.
Et moi, j'aime bien cette capacité à créer des images et à trouver des solutions de mise en scène à chaque spectacle. Je me dis, au fond, ce garçon, il va encore nous étonner, il va encore nous surprendre. Ça me rassure, parce que il n'est pas l'homme d'un spectacle, d'un Henri VI. Il a d'autres choses sous son pied, et c'est beau à voir. Moi,
avant de vous redonner la parole, Jean-Christophe Briançon, et Satoun Doy, quelques commentaires des auditrices et auditeurs de la dispute.
On va voir s'ils font pencher la balance.
On va compter.
D'abord, un message du Curieux des Arts, fidèle auditeur de la dispute qu'on retrouve ce soir. Il écrit: adultère, vol, inceste, infanticide, cannibalisme familial, tout est réuni dans Thieste, sublimé par Thomas Joly, nous laissant tétanisés. Pas une seconde de repos dans ce jeu sur l'interdit de ne pouvoir montrer la mort et le dépeçage des enfants. Raphaël Blaise Baptiste a beaucoup apprécié Thieste, car Thomas Joly a choisi d'amplifier le mythique pour lui donner une consistance spectaculaire. Il a délibérément poursuivi un projet enthousiaste au sens le plus fort, selon lui, car tous les acteurs, dans leur costume ou dans la totalité absolue de la scène, sont enveloppés et nimbés d'une délicate et tonitruante exécration. Un vrai plaisir pour moi, conclut-il. Je poursuis avec Iris sur Twitter qui nous confie avoir pleuré des larmes de paillettes tellement elle a trouvé ce spectacle queer. Elle a frissonné face à l'horreur et a eu le souffle coupé devant l'immensité de la cour d'honneur et de la mise en scène de Thomas Joly. C'était sa première fois. Sixtine souligne quant à elle la sublime noirceur de Thiès. Pour Emery Clanvin, c'est un spectacle qui saisit aux tripes. Et c'est une magnifique redécouverte du théâtre de Sénèque et du lyrisme tragique des anciens pour Alain Boissineau.
Bon, la balance se penche du très bon côté.
Ça,
hein.
Ça penche un peu.
Mais voilà, on peut entendre toutes les paroles. Si vous voulez dire un dernier mot, Jean-Christophe.
Oui, bah, deux choses. Il y a quelque chose en résonance avec les tweetos qui est, qu'on peut reconnaître quelque chose à Thomas Joly, c'est de faire venir la jeunesse au cinéma, au théâtre. Et c'est quand même génial qu'il soit là pour le faire. Malgré tout, c'est quand même vraiment bien. Et après,
débat, on a ce même débat avec Vincent Mackay,
c'est quand même malgré tout utile et par ailleurs je pense que à sa décharge, et je vais peut-être paraître effroyablement prétentieux, mais je trouve que pour ce qui est du problème de la diction, ce problème tient aussi au fait que selon moi cette tragédie de Sénèque n'est pas forcément d'une finesse et d'une force incroyable, et que donc quand on a cette diction là sur ce texte là, c'est un petit peu ton sur ton, parce que quand on surimpressionne des sentiments qui sont déjà eux-mêmes très criants dans le texte, on finit par ne rien faire d'autre qu'hurler quelque chose qui existe déjà. C'est un petit peu dérangeant selon moi, et c'est très lié au texte.
Bon, alors pour à découvrir ce Thiès de Sénèque mis en scène par Thomas Joly, d'abord il est disponible sur Culture Box jusqu'au mois de janvier 2019. Ensuite la tournée commence dès le 27 septembre à l'Archipel à Perpignan. Il y aura ensuite des dates à la Comédie de Saint-Étienne en octobre, au Quai à Angers en novembre encore au Grand T, au Théâtre de Loire-Atlantique, fin novembre, début décembre à la Villette à Paris, puis ce sera Strasbourg, décembre, Théâtre des Salins de Martigues, décembre également, puis janvier, Charleroi, La Rochelle, Les Célestins à Lyon, mois de février, Théâtre de Caen, le Théâtre d'Antibes et le Théâtre et la Scène Nationale de Toulon, ainsi que la Théâtre Nationale de Marseille, ce sera pour le mois de mars 2019, le Théâtre Firmin-Gémier, et le Théâtre du Nord à Lille fermeront la marche de cette tournée au mois d'avril.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
La première de la saison est déjà ce problème. Il nous reste 13 minutes pour parler d'un spectacle qui dure 10 heures. Le deuxième spectacle d'Avignon dont on voulait parler ce soir plus largement, Joueur, Mao 2, Les Noms, d'après Don DeLillo, mise en scène par Julien Gosselin, spectacle qui sera lui en tournée à partir du 6 octobre, qui passera notamment par l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Julien Gosselin, lui aussi, révélé officiel d'Avignon un an avant Thomas Joly en 2013, c'était avec l'adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, qui d'ailleurs poursuit sa vie en tournée, tout comme 1666 d'après Roberto Bolaño, vu à Avignon en 2016. Spectacle au long cours, là aussi, comme cette trilogie de Lillo, pas loin de 10 heures, pour un spectacle qui ne s'arrête vraiment jamais, et où la violence physique, sociale, économique et les réflexions sur l'art sont à nouveau au rendez-vous, comme c'était le cas pour les spectacles précédents.
Alors, mise à jour politique, comme on dit. En fait, je suis l'évolution politique et économique du pays en question. Un terme de graduation extrêmement complexe. Les statistiques des prisons comparées au nombre de travailleurs étrangers. Qu'arrive-t-il aux dissidents? Les salaires de nos généraux ont-ils récemment doublé? Etc, etc. Sur place, nous avons des gens que nous appelons des points de contrôle. Le conseil est toujours national dans le pays en question. Ensemble, nous analysons les chiffres à la lumière des événements récents. Qu'est-ce qui paraît le plus probable? Le renversement? L'effondrement? La nationalisation? Tout ce qui peut mettre en danger les investissements.
De la politique, j'en suis ravi.
C'était pas une mauvaise soirée. Aussi que l'on considère comment ces choses se passent généralement.
Oui, comment ça?
Pas mauvaise du tout.
Non, mais comment les choses se passent généralement?
Elles se passent, simplement.
Comment? Elles s'étirent à l'infini?
Oui, d'une certaine façon. James doit le savoir.
C'est vrai, pas de Français ce soir pour nous dire que les Libanais sont sournois. Personne pour nous dire comment les Saoudiens se tripotent les pieds pendant les réunions d'affaires. Et personne non plus pour nous dire, des Syriens d'Alep, comptez bien vos doigts quand ils vous serrent la main.
Pas de vendeur de détecteur de fumée originaire des Midlands.
Oh là là, oula, rappelle-toi Ruddle.
Il s'appelait Wood.
Mais non, le type avec l'œil mal foutu, l'œil qui se baladait.
Il s'appelait Wood.
Et pourquoi voudrais-tu que je l'appelle Ruddle?
Oh là 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 là, tu dois être fatigué, toi.
Mais qu'est-ce que la fatigue à voir avec le nom Ruddle?
Et de quoi parlons-nous à table tout ce temps que nous sommes? Essentiellement de politique. Voilà à quoi ça se résume. L'argent et la politique. Et c'est justement mon travail et le tien aussi.
Ouais, je suis dans le monde. J'ai toujours été dans le monde. Et je crois que j'aime plus beaucoup ça.
Nous tous. Voilà important, tout à coup. Est-ce que tu ne le ressens pas? Nous sommes à l'intérieur, manipulant des sommes colossales d'argent délicat, recycleur de pétrodollars, constructeur de raffineries, analyste de risques.
Tu finiras alcoolique. C'est tout ce que tu seras. Je te donne un an. Si tu ne te retrouves pas en Amérique, tu te laisseras glisser ici. Tu te prendras à emporter une flasque d'Arabie Saoudite. Si tu vas mieux quand tu t'en passes, c'est que t'es un alcoolique.
C'était une réplique de ton père, ça.
Ouais, exactement.
Ouais.
Sauf qu'il n'allait pas mieux quand il s'en passait. C'était une âme morte, de toute façon. Mais toi, t'es différent.
J'aime mon travail. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le comprendre? Tu n'écoutes pas?
Voilà pour ce court montage de Joueur Mao 2 et les noms. Mise en scène et adaptation, Julien Gosselin. Jean-Christophe Briançon pour commencer.
Alors c'est compliqué d'en parler, parce que bon, ça dure 10 heures, c'est quand même assez changeant. 10h30.
Moi c'était 9h40 quand je l'ai vu. Ah, c'était peut-être. Mais c'était la date dernière du festival.
La chance. Mais donc c'est compliqué parce que c'est 10 heures qui sont pas uniformes, c'est quand même assez changeant. Mais alors, pour revenir sur ce que disait Fabienne en début d'émission, sur le fait qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas eu finalement de scandale ou de buzz ou de discussion peut-être autour de, bon, de la thématique en l'occurrence qui est celle du festival cette année. Mais bon, s'il n'y en a pas eu autour de la thématique, en tout cas là je pense qu'il n'y a pas eu de scandale ni de buzz autour de cette pièce. Mais en tout cas, on peut réellement être heureux de voir cette pièce tant elle peut faire discuter. Parce que sur le plan formel, et pas sur le plan du fond, parce que les désaccords de fond, finalement, bon, c'est un peu sans fin. Là, le formel, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On est au théâtre, on voit de la forme, et là, c'est une forme qui est quand même intéressante. En l'occurrence, bon, si on veut parler, peut-être, je sais pas, le prendre de manière chronologique, alors, en tout cas, au début,
comment on le vit,
le début de cette pièce se présente comme un film, en fait, purement un écran qui est disposé devant un plateau derrière lequel les comédiens jouent, et sur cet écran, nous est présenté le film de ce que les comédiens jouent derrière.
Un écran opaque, on ne voit pas les comédiens.
Opaque, on ne voit pas les comédiens. Temps. Donc concrètement,
on n'est même pas sûr forcément que ce soit eux qui jouent en direct.
On en a la preuve que au fil de la pièce, à peu près, je pense au bout d'une heure et demie, quelque chose comme ça. Donc bon, ça pose évidemment plein de questions. Personnellement, je pourrais remettre en cause plein de choses, mais pour autant, ça fait quand même réfléchir sur la forme et ça nous amène quelque chose, y compris sur le au-delà de la forme, même, je pense, quelque chose de générationnel, quoi. En tout cas, ça nous montre une pièce qui veut dire quelque chose de l'état donné du théâtre tel qu'il peut être fait par un jeune homme de 30 ans aujourd'hui, un jeune homme de 30 ans qui réfléchit, et en l'occurrence qui réfléchit plutôt bien. Donc c'est quand même intéressant à voir sur le plan générationnel. Après, moi j'ai beaucoup de réserves à mettre, mais qui sont des réserves que j'avais déjà émises au moment de 1993, qui avait été présenté l'an dernier à Marseille, puis ensuite à Gennevilliers, je crois. C'est sur le plan, si on réfléchit sur la façon dont rythmiquement sa pièce est pensée, rythmiquement et aussi dans sa gestion du temps, qui est une gestion du temps finalement, alors qu'impose les 10 heures de la pièce, une gestion du temps assez téléologique, c'est-à-dire qu'on va toujours évidemment courir vers une fin que de toute façon avant même d'y être allé, on attend, puisqu'on n'a qu'une envie, c'est de voir ce qui va se passer à la fin de ces 10 heures. Selon moi, et ce sera peut-être sujet à débat, pour moi c'est une pièce qui court d'effet d'annonce en effet d'annonce, sans finalement ne montrer rien d'autre que l'annonce de son présent et la préparation d'un futur qui, selon moi, n'est pas encore vraiment arrivé.
Bien. Fabienne Pasco, pour prendre le relais.
C'est compliqué parce que moi, je n'ai pas compris grand-chose à ce que ça raconte. Alors, je ne suis pas une lectrice assidue de Don DeLillo. Je crois que les textes n'ont pas forcément de lien entre eux, si ce n'est de traiter du terrorisme aux États-Unis dans les années 70, donc de la violence politique, des sectes et de tout ça. Je dois dire que la première partie, je n'ai strictement rien compris. Et j'ai été assez agacée de cette 1h30 que dure le film. Évidemment, on avait compris que les comédiens jouaient derrière, mais j'avais envie de les voir en chair et en os. Donc, ça joue sur la frustration. Et puis, c'est vrai que la frustration, ça fait partie du geste théâtral de Gosselin. Et c'est vrai que Gosselin, c'est quelqu'un qui se... Même s'il monte et plutôt bien des romans, comme il a pu le faire avec Bolaño, avec Les particules élémentaires de Houellebecq, il se fout complètement de ce que ça raconte, au fond. Et il nous invite... Oui, là, je vous trouvais que je parle mal. Hein. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit...
Pas du tout. Je me demande pourquoi vous pensez cela, en fait.
Ben, On comprend pas bien ce que ça raconte. On comprend pas. On est dans un climat social de violence. Ouais. Et lui, il est au-delà de la linéarité de la fiction. Il est au-delà de la psychologie. Et je pense que là où il veut nous entraîner et où je rentre bien volontiers pendant 10 heures, c'est dans une expérience de théâtre avec des gens qui jouent devant moi, qui jouent plutôt bien, avec des gens qui m'entraînent justement parce que je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas ce qu'ils disent, donc ils m'entraînent dans une espèce de pureté absolue du jeu, le spectateur face à des acteurs, et finalement ça marche, donc chapeau Gosselin, parce que c'est vrai que c'est une expérience rarissime, on comprend pas, et finalement on se laisse porter par ça, c'est exceptionnel. Peut-être que ça m'évoque aussi peut-être certaines expériences que j'ai pu vivre avec Bob Wilson au début, où on comprenait pas tout, on est hors du temps, il joue du temps. Alors, les spectacles vont être amenés à 3 soirées. Je crois que 3 soirées, ça sera moins bien qu'une soirée de
10h30. Où il y aura des intégrales le week-end.
Exactement.
Il y aura des intégrales le week-end, normalement.
Voilà, mais c'est vrai que parmi tout ce qu'on a pu voir à Avignon, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, c'est vraiment le geste, la forme la plus passionnante.
Philippe Chevillier.
Oui, parce que c'est pour résumer encore l'image qu'on peut avoir, en tout cas au début, c'est vraiment une cloison en bois avec des murs d'écran, la musique techno qui d'ailleurs moi je trouve formidable et tout ça, une transe qui nous emporte. On a quand même 3 ambiances différentes, hein, parce que au début c'est un peu on est un peu dans un sitcom avec cette histoire de jeune loup de la finance qui se mêle à un groupe d'extrême gauche. La deuxième partie est beaucoup plus artie avec du noir et blanc. Moi, elle m'a beaucoup plu, la deuxième partie. Et la troisième, qui est beaucoup plus théâtrale, donc qui part d'une l'histoire d'une secte qui fait des sacrifices humains en suivant l'ordre de l'alphabet. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que c'est l'exercice le plus difficile qui est fait, évidemment, Gosselin, parce que c'est 3 romans qui sont effectivement... Le premier, sous Joueur 77, Mao 2, 1991, Les Noms, 1982, donc qui ont rien à voir entre eux, sauf qu'on a toujours les mêmes thématiques sur la mort, le terrorisme, la violence.
Et création.
La création. Il faut savoir aussi que, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue toujours en lisant Don de Lillo, c'est-à-dire qu'on part sur des constructions qui sont assez complexes, avec des énigmes qui sont pas toujours résolues, et il y a des moments qui sont absolument sublimes, où tout d'un coup, on nous entraîne Dieu sait où, et on retombe pas forcément sur nos pattes après, voire avec des passages un peu clichés. C'est vraiment une œuvre qui est très ambiguë, l'œuvre de Don de Lillo, et je trouve que d'une certaine façon, on comprend pas tout, mais parce qu'il a vraiment suivi, et à l'instinct, Gosselin, je trouve qu'il arrive à suivre les œuvres, c'est assez incroyable qu'il arrive à faire ça. Et là où je suis d'accord aussi avec ce que disait Jean-Christophe, c'est, et puis ce que disait Fabien aussi, c'est sur la qualité des comédiens. Moi, je trouve qu'ils ont progressé, mais dès le début, je trouvais qu'ils étaient parmi la jeune garde, parmi ceux qui avaient le plus de potentiel. Et là, vraiment, sur 10 heures, arriver à tenir... alors, je ne me rappelle plus le nom de la comédienne, mais qui se retrouve à jouer la photographe, un peu énigmatique, et puis après, qui va jouer la femme d'un businessman un peu dépressive et tout ça. On se dit, mais c'est la même? Oui, c'est la même, elle arrive à...
Et puis, Frédéric Leitgens, qui est formidable aussi.
Oui, absolument. Ah oui, absolument, de bout en bout. Le seul problème, moi, que j'ai eu avec le spectacle, c'est la fin, parce que je pense qu'il n'a pas eu vraiment le temps de finir, et que du coup, formellement, ça paraît tout à fait réussi, mais nous d'où la différence de temps, ça s'étire un peu trop vers la fin, et les comédiens sont épuisés, et nous, on est épuisés aussi. Et je pense qu'il n'a pas trouvé le monologue de 40 minutes théâtral, purement, il y a plus de cinéma, est un peu longuet, et puis à la fin, il y a cette espèce de danse ballet, je ne voulais pas dire espèce.
Ah, non, mais vous dites ce que vous voulez, vivement que vous le mettez sur le bon genre.
Ce ballet sur le délitement du langage à partir d'un texte d'enfant qui d'abord,
on comprend pas. Ce sont des glossolalies, donc c'est normal qu'on les comprenne pas.
Voilà, exactement, mais
par définition.
L'image est pas...
peut-être.
C'est un concours de glossolalies.
Voilà. Mais la fin est un peu ratée, je trouve, mais sinon, quel geste, évidemment, quel souffle sur 10 heures. Moi, c'est vrai que c'est un spectacle qui m'a énormément marqué. Quelques réserves, bien sûr, mais quand même, ce Gosselin, il est incroyable, quoi.
Ouais, alors je veux rester là-dessus. Ce Gosselin est incroyable parce que pour le peu de temps qui reste, c'est vrai qu'ayant vu la dernière représentation à Avignon, elle durait déjà beaucoup moins longtemps que la première. Et pour en avoir discuté avec le metteur en scène et adaptateur, je pense que quand ce spectacle va être repris, il sera encore différent, et notamment cette troisième partie qui, moi aussi, m'a posé problème et qui qui semblait à eux-mêmes, à la compagnie Si vous léchiez mon cœur, poser problème. Donc ça, effectivement, je pense que ça n'a pas encore tout à fait trouvé sa forme. Et peut-être que les noms, c'est peut-être aussi le texte le moins évident des trois. Et peut-être, j'ose le dire, peut-être le moins bon. Mais ça, c'est vraiment aussi une histoire et un goût personnel, peut-être. Mais en tout cas, le saut qualitatif, et notamment des comédiens, vraiment pour moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, parce que il y avait cet effet toujours de crescendo, décrescendo dans les précédents spectacles de Julien Gosselin, et que là, ils leur offrent et ils prennent beaucoup plus de richesse dans la palette de jeux, dans la palette d'émotions, du coup, et que même si on ne comprend pas tout, je vous rejoins là-dessus tout à fait, Fahim Pascoe, ça communique quand même des émotions, ce que vous avez magnifiquement dit. Et puis dire encore que Hubert Collat leur a fait une scénographie formidable, parce qu'elle se change à vue, et que c'est vraiment un espace de jeu magnifique. Et les dernières secondes pour Aïssa Toundoy, un commentaire peut-être?
Un petit message de David Travers, qui se dit heureux des 10 heures d'épopée hypnotique de Julien Gosselin, malgré quelques longueurs sur les noms, il vous rejoint. Il félicite la mise en scène cinématothéâtrale sublime d'une troupe d'exception qui a encore gagné depuis 2666 en fluidité et en harmonie.
Bon, peut-être qu'il faudra faire une vraie dispute sur ce spectacle, avoir l'occasion de la tournée. Ça commence le 6 octobre au Phoenix, lieu important pour Gosselin, à Valenciennes, puis le Théâtre du Nord, autre lieu important, toujours en octobre, l'Odéon du 17 novembre au 22 décembre, puis en 2019 à Hambourg, à Annecy, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Anvers, à Brest, à Rennes, et enfin à Amsterdam. On finit la première émission en retard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça ne nous empêchera pas de faire le jeu de la dispute, Aïssa Toundoy, et nous donner pas nous donner la réponse du jeu du 29 juin, faut pas exagérer, mais dire qu'on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition de Kader Attia, qui est au Macval, à Vitry-sur-Seine. Quelle est la question, Aïssa Toundoy?
Quel était le médium employé par Kader Attia lors de ses premières expositions?
Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez également vous y abonner au podcast, préparer vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain, musique avec Emmanuel Dupuis, Anna Segalevitch et Emmanuel Giuliani. Retour sur trois festivals lyriques, Salzbourg, Aix-en-Provence et Bayreuth.